Père Saint et juste, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, parce que tu en es digne. Père, merci de tout ce que tu as fait pour nous depuis ce matin jusqu'à cette heure-ci. Aucun mérite. Sinon, nous avons tout simplement obtenu la faveur d'être de ce côté du temps. C'est pourquoi, Père, nous ne voudrions pas être comme des irréconnaissants. Nous venons devant toi pour te dire merci pour ce privilège qui a été le nôtre pour toute cette journée. Maintenant, nous te disons merci pour les cantiques qui sont montés vers toi. Avant toute chose, pardonne-nous d'abord nos offenses, car nous sommes nés dans l'iniquité, dans le péché. Nous reconnaissons notre état de pécheur, pardonne-nous. Et nous voudrions que tu puisses disposer nos cœurs pour que nous puissions recevoir ta parole comme il le faut. Maintenant, pour la prédication, nous voudrions compter sur toi, Seigneur Jésus, parce que c'est ton œuvre. Un homme ne peut pas convaincre un autre pécheur. Alors nous avons besoin de toi pour apporter cette parole ce soir, pour convaincre, pour corriger, pour édifier ton peuple. C'est cela notre prière. Sois-nous favorable, Père, c'est que nous venons de te demander ce que nous n'avons pas demandé, que tu puisses vraiment te souvenir de nous. À toi l'honneur, à toi la gloire, c'est dans le nom béni et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je viens de t'adresser cette modeste prière. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Je vous salue une fois de plus, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je pense que vous allez bien. Il fait moins froid. Ah, franchement, je suis parmi de ceux-là qui est dans une grande joie. Il fait moins froid. Le mercredi, c'était très, très chaud. Vraiment, c'était difficile. Alors, nous remercions le Seigneur pour cela parce que c'est lui qui contrôle toutes ces choses, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment dans une grande joie. Et nous le remercions parce que nous nous retrouvons encore ici ce soir. Nous avons dans nos cœurs un seul objectif. Un seul, en tout cas moi, un seul objectif qui est sacré. C'est le fait de nous retrouver autour de la table du Seigneur, n'est-ce pas? Être des invités autour de sa table, nous approcher de notre Seigneur pour avoir du repos selon Matthieu 11, verset 28, n'est-ce pas? Jésus est le Seigneur de la vie, celui qui marche vraiment avec lui, fait toujours l'expérience de sa grâce. Voilà ce qui peut vraiment nous encourager en tant que enfant de Dieu. Mercredi passé, toujours dans le cadre de la spiritualité dont Paul avait parlé dans les livres des Corinthiens, nous avons vu l'homme spirituel juge de tout, dit Paul dans le livre des Corinthiens. Que l'homme spirituel juge de tout. Et comment l'homme spirituel juge de tout? Que l'homme spirituel, lui, il est mature. Alléluia. Il est mature dans les affaires du Seigneur. Et comme il est mature dans les affaires du Seigneur, ce monsieur a la qualité de juger de tout. Et trois raisons ont été données la fois passée pour justifier pourquoi est-ce que cet homme spirituel peut juger de tout. Il y avait une base. Il était mature. Et on a avancé trois raisons. La première, il a une capacité à évaluer et à comprendre divers aspects de la vie. Ce n'est pas quelqu'un qui court à la première minute. Non. Deux, il fonctionne avec le Saint-Esprit. Et que dans son esprit, il peut recevoir des révélations de la part du Seigneur. On a donné autant d'exemples dans la parole. Le troisième aspect, raison plutôt, l'Esprit de Dieu habite dans son esprit. Selon 1 Corinthiens 3, verset 16. Alors, nous avons pu observer que l'occupant et son habitation partagent le même caractère. Quel est ce caractère? C'est l'amour de la vérité. Alléluia. Et l'amour de la vérité, c'est la clé de la révélation. Alors, ce soir, je veux t'inviter à te lever, de prendre avec moi l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, et nous lirons le premier verset. Matthieu 7, le premier verset. Lisons. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Amen.
Amen.
Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Asseyez-vous, mes bien-aimés. La fois passée, c'est-à-dire le mercredi, j'avais lu dans 1 Corinthiens 2, versets 13 et 15, ainsi que Matthieu 7, verset 1. C'était justement pour présenter la première mouture de cette histoire. Et aujourd'hui, avec Matthieu 7, verset 1, nous allons essayer de parler sur la deuxième mouture du verbe juger. L'homme spirituel, Paul dit, juge de tout. Et ici, Matthieu 7, 1 nous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. La parole du Seigneur ce soir, pour toi et pour moi, nous l'intitulerons ne jugez point. Ne jugez point. Alors ici, mon frère, ma soeur, il faut que tu saches que c'est le Seigneur lui-même qui parle. Alléluia. Dans les livres de 1 Corinthiens, c'est Paul qui parlait aux Corinthiens. Mais ici, dans Matthieu 7, verset 1, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Alléluia. Ah. Nous pouvons donc être certains que c'est exactement ce qu'il a dit. Ne jugez point. Alléluia. À la première lecture, quand vous prenez l'homme spirituel juge de tout et que vous tombez dans Matthieu 7, verset 1, du point de vue de la forme, vous pouvez vous dire que que ces deux phrases se contredisent, n'est-ce pas? Je dis bien du point de vue de la forme. Vous pouvez dire que ces deux phrases se contredisent, effectivement. Il dit, l'homme spirituel juge de tout. Et le Seigneur dit, ne jugez point. Ça, c'est du point de vue de la forme. La forme représente le comment. Le comment, c'est-à-dire la manière dont vous présentez les choses. Mais dans le fond, c'est-à-dire de quoi s'agit-il quand vous grattez, en tout cas, j'ai essayé de faire comme Luc. Quand vous lisez Luc 1, les trois premiers versets, qu'est-ce que Luc dit?
Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses.
Jusque-là. Il m'a aussi semblé bon, après avoir étudié minutieusement au moins, jusque ce soir. OK? Il m'a aussi semblé bon, selon ma compréhension de ce soir par la grâce de Dieu, du point de vue du fond, il n'y a pas de contradiction. L'Esprit dit la même chose parce que sinon on doit déchirer la Bible. Amen. Ça va?
Amen.
Tu peux lire 2 Pierre 1, verset 21.
Car ce n'est pas par une volonté d'homme,
oui,
qu'une prophétie a jamais été apportée.
Oui.
Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Voilà pourquoi j'ai dit, il n'y a pas de contradiction, sinon on doit déchirer la Bible. Alléluia. Il ne peut pas y avoir contradiction. Nous devons apprendre à bien aligner les Écritures. Alléluia. Donc je me suis mis dans la position de Luc. Dieu, comme elle le disait dans le message la dislocation à la page, la dislocation du monde à la page 28, paragraphe 70, Dieu a exprimé ses pensées de façon claire dans sa parole. Donc tu n'as pas à penser. Alléluia. Dieu, à propos de sa pensée, il a déjà pensé. Et Dieu a déjà parlé. Alléluia. Donc, si tu veux trouver une réponse par rapport à une question de la vie, tout ce que tu veux, la Bible va te répondre. Alléluia. Ça dépendra tout simplement dans quelle position tu seras.
Ouais.
Alléluia. Mais sinon, tu trouveras une réponse évidente par rapport à ton problème. Il y a tout simplement des interprétations erronées sur le sujet que nous pouvons trouver contradictoire dans la Bible.
Amen.
Dieu ne peut jamais se contredire.
Amen.
Alléluia.
Amen.
L'homme spirituel juge de tout et ne juge point. Alléluia.
Amen.
Je vous assure, soyez-en certains, comme Dieu a déjà exprimé sa pensée dans sa parole, il faut seulement aller bien aligner les Écritures et demander au Seigneur de te donner cette possibilité d'avoir une révélation pour que tu comprennes ces choses-là.
Amen.
Ne jugez point. Ce soir, par rapport aux deux textes, je vous demande d'avoir une bonne compréhension de ces paroles du Seigneur par rapport à ce que Paul disait aux Corinthiens. Ça va? Sinon, dans le message « Dieu mal compris », à la page 38, paragraphe 161-162, le messager dit ceci, « Vous savez, mal comprendre nous attire bien des ennuis. » Alléluia. La compréhension de ce que nous écoutons. Vous savez, mal comprendre nous attire bien des ennuis. Très souvent, les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre. Alors, ils ont mal compris. Voilà qui ne manque pas de mettre les gens dans l'embarras. Et avec ta mauvaise compréhension, tu vas répandre de mauvaises informations. Alors que tu as mal compris. C'est pour cela. Chaque fois, quand nous venons ici, comme je l'avais dit, nos cœurs doivent être libres pour que nous puissions recevoir le message que Dieu a préparé pour nous. Mais si notre cœur est chargé de rancune, est chargé d'offense, nous n'allons rien comprendre. Le malin sera là pour t'embêter, pour vraiment te distraire au lieu de comprendre. Nous continuons la lecture. Voilà qui ne manque pas de mettre les gens dans l'embarras. Je crois qu'il serait avantageux pour nous d'attendre, d'avoir bien compris quelque chose avant d'en parler. Il en sera ainsi aussi pour les prédicateurs. Je pense que quand tu ne comprends pas un sujet, ne t'hasarde pas d'y entrer. Ne t'hasarde pas d'y entrer. Vous savez, un jour, j'avais dit, comme ça, quand je suis ici, que le frère François prêche les 70 semaines de Daniel, ça va, je comprends. Ça va? Je comprends. Moi, je ne peux pas me mettre debout ici, commencer à parler les 70 semaines de Daniel. Alléluia.
Amen.
Quand je suis assis, qu'on me prêche ça, puisque moi, je suis disciple, j'ai mon carnet, j'ai note, c'est clair dans mon esprit. Amen. Mais je ne peux pas venir ici parler les 70 semaines de Daniel. Je ne sais pas.
Amen.
Un frère m'a repris. Hey, tu ne peux pas dire ça, tu es capable de prédicateur. Je dis, mais en quoi j'ai péché? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et pourtant, quand je suis assis, j'ai mon carnet, je note très bien, je comprends. Mais je ne peux pas, je vous le répète, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne sens pas ça dans moi, je ne peux pas. Nous continuons. N'êtes-vous pas d'accord? Je sais que ça le serait pour moi. Il me serait bien avantageux de voir ce qui en est premièrement et ensuite d'en parler. Vous voyez? Mais nous sommes toujours, semble-t-il, mal compris. Et David parle ici du peuple d'Israël qui a mal compris ses miracles lorsqu'il s'est trouvé en Égypte. Or, mal comprendre, ce n'est pas simplement dire, eh bien, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais c'est voir quelque chose se produire et ne pas très bien comprendre le pourquoi. Alléluia. C'est ça qui vous fait manquer les coches à coup sûr. Alléluia.
Amen.
Alors, c'est la même prière que je vous adresse ce soir. Ce que dit Paul aux Corinthiens et ce que le Seigneur est en train de dire ici, il faut bien comprendre, la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Alléluia.
Amen.
Alors, nous sommes ce soir d'accord que Dieu est un Dieu saint.
Oui.
Nous sommes d'accord?
Oui.
et qui ne peut pas tolérer le péché. Nous sommes d'accord?
Oui.
Parfait. Est-ce que tu peux lire 1 Pierre? 1 Pierre 1, verset 15-16.
Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite.
Oui.
Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint.
Voilà. Donc c'est la volonté de Dieu. Hein? C'est la volonté de Dieu que nous soyons saints. Parce que lui, il est saint. Alléluia. Maintenant, quand tu tombes dans le péché, quelle est ta réaction? Quand je tombe dans le péché, quelle est ma réaction? On doit se limiter à dire, c'est juste une petite chose. Ou que ce n'est pas important. Ça peut arriver à tout le monde. C'est ça. Mais mon frère, ma soeur, je dois te dire ceci. Un cancer de l'estomac est toujours un cancer, même si tu expliques ton mal est dû à une mauvaise digestion. Le cancer restera le cancer. Donc, devant le péché, quelle que soit l'explication que tu vas donner, tu dois tout simplement te rendre compte que c'est un péché. Alors, quand toi, tu vas commencer à me dire, c'est un péché véniel, c'est un péché qui mène à ceci, tout ça, pour Dieu, tout est péché, n'est-ce pas? Il est écrit ceci, 1 Jean 1, versets 9 et 10.
Si nous confessons nos péchés,
oui,
il est fidèle,
oui,
et juste pour nous les pardonner.
Très bien.
Et pour nous purifier de toute iniquité.
Oui.
Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur.
Oui.
Car sa parole n'est point en nous.
Oui. Ça, c'est la position que Dieu nous donne. Alléluia. Nous sommes dans une mauvaise passe. La première réaction que nous devons avoir, c'est celle-là. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, la Bible dit que nous faisons Dieu des menteurs. L'homme spirituel juge de tout. Et dans ma chair, le Seigneur dit, ne jugez point. Prenons Galates 6, verset 1. On aligne les Écritures. Galates 6, verset 1.
Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute,
oui,
vous qui êtes spirituel,
oui,
redressez-le,
oui,
avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté.
Est-ce que tout le monde a entendu? Tout le monde a entendu? Recommence.
Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté.
Ok. Il y a une situation ici hypothétique avec les si, n'est-ce pas? Mais c'est arrivé. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit? Noah?
Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel.
Stop. Vous avez entendu? Vous qui êtes spirituel. Et qu'est-ce que Paul dit aux Éphésiens? L'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. La direction est bien donnée. Alors, si quelqu'un vient d'être surpris, la Bible nous donne une piste en disant, vous qui êtes spirituel. Donc les qualifiés, alléluia, les qualifiés, les qualifiés. Et pour entrer dans la spiritualité, on nous a dit, il faut être assidu pour pouvoir maîtriser les quelques éléments qui ont été donnés. Alléluia. Il faut être assidu pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses croître en te nourrissant de la parole de Dieu. Ce n'est pas en one shot, tu viens en one shot, tu sors en... Mais non, 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 non. On nous dit très bien, quand je suis dans une mauvaise passe, vous qui êtes spirituel, on n'atteint pas cette qualité du jour au lendemain ou en claquant les doigts. Alléluia. Il y a un travail de suivi qui doit être fait. Il y a un travail conséquent qui est derrière. Pas à pas, tu apprends avec le Seigneur. Alléluia. Tu as une relation privilégiée avec le Seigneur. Tu passes le temps dans la méditation. Tu passes le temps dans jeûne et prière. Tu passes le temps, il est saint, tu dois être saint.
Amen.
Et cette opération de vidange et de remplissage se fera au pied du Seigneur. C'est au pied du Seigneur que l'opération se fera. Pas ailleurs, je suis désolé. C'est auprès du Seigneur, c'est auprès du Seigneur. Marthe et Marie, l'une, elle est occupée aux affaires sociales, mais l'autre a choisi la bonne part. Alléluia.
Amen, amen.
La bonne part.
Amen.
Il faut être assidu. Tu as pris un engagement. Il faut le respecter, mon frère, ma soeur.
Amen.
Vous qui êtes spirituel, ça va, Noah?
Oui.
Vous qui êtes spirituel, ne me laissez pas comme ça. Il faut me redresser. Heureusement que la Bible nous donne tous les outils. Vous qui êtes spirituel. Et Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, il leur dit que l'homme spirituel juge de tout. Pas l'homme charnel. Ah, pas l'homme charnel. Pas l'homme charnel. Alors, quand un chrétien a été surpris en faute, il doit être redressé.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Il doit être redressé. Mais alors, on nous dit, ne jugez point. On nous dit, ne jugez point. On fait quoi, Noah? Ah, voilà! Quand un chrétien a été surpris en faute, il doit être redressé. Ce ne sont pas ceux qui sont novices dans la foi qui peuvent redresser, mais bien plutôt ceux qui sont spirituels, nous disent les Écritures, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ceux qui marchent selon l'Esprit. Galates 5, verset 16. Et ceux qui marchent selon l'Esprit et qui sont mûrs dans la foi. Selon 1 Corinthiens 2, verset 15. En outre, si vous avez bien lu, bien écouté, en outre, cette tâche délicate doit s'accomplir avec un esprit de douceur. Alléluia. Un esprit de douceur qui s'oppose à l'esprit d'orgueil.
Amen.
C'était quand vous allez avec... Mets-toi tout le temps. C'est fini. Vous n'allez plus gagner la personne. C'est fini, la personne est perdue. Mais la Bible précise et donne les outils du redressement avec un esprit de douceur. Pourquoi? Tu dois garder en tête que nul ne peut être certain de ne jamais tomber dans un péché en particulier.
C'est vrai.
Alléluia.
Amen.
1 Corinthiens 10, verset 12.
Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber.
Ah, non. Quand tu y vas, ne hausse pas tes épaules. Ne regarde pas la personne d'en haut. Alléluia. Puisque c'est ça la position des jugés, quoi. Hein? Tu es là. Tu es hautain. Non, messieurs, parce que tu es aussi un pécheur. Alléluia.
Amen.
Tu es aussi un pécheur. Donc, fais gaffe. Ne jugez point. Mais ici, dans Galates 6, on vient de voir un exemple concret que ça doit se faire. Alors, retournons maintenant dans notre verbe qui cause controverse. Ne jugez point. Dans Matthieu 7, mon frère, ma sœur, il est parfois important, quand nous étudions la Bible, d'éviter d'isoler un mot ou un verset.
Amen.
J'ai appris l'habitude, quand je suis devant un verset, oui, je lis tous les chapitres. Pour que je vois ce qu'il y a devant,
oui,
et ce qu'il y a après. Comme ça, je comprends le contexte. Alors, pour comprendre ce premier verset du chapitre 7, ne jugez point, ce verset trouve sa base où? Quand vous lisez le chapitre 6. Au chapitre 6, tout le chapitre 6, le Seigneur rejette de pratiques pharisaïques.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Et il est en train d'examiner leurs actes hypocrites.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Dans tout le chapitre 6. Et quand il commence le chapitre 7, ne jugez point. C'est une dernière illustration des pratiques de pharisiens qu'il est en train de donner. Quelle est cette dernière pratique? C'est le fait de juger les gens. Alléluia. C'est une illustration qui prend suite de source depuis le chapitre 6 au premier verset jusqu'au dernier verset, il est en train de rejeter toutes les pratiques des pharisiens. Alléluia.
Amen.
Et ici, dans Matthieu 7, 1, c'est le pratique de juger. Le pharisien était en train de juger le Seigneur et de le trouver inadéquat. Alléluia. Par rapport à son enseignement. Selon eux, le Seigneur n'offrait pas la sorte de royaume qu'ils attendaient et n'exigeait pas la sorte de justice dont ils faisaient preuve. Donc, les pharisiens les rejetaient à cause de ça. Et d'ailleurs, même les disciples, quand vous appelez et Cléophas et son ami, il dira, nous Luc 24. Qu'est-ce que monsieur dit? Ah. Luc 24, verset 21, Cléopas dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Voyez-vous? Nous-mêmes, certains disciples, alors les pharisiens, eux, ils avaient leur profil de cette personne qui devait venir pour les délivrer. Donc, comme ça n'arrivait pas, les pharisiens le rejetaient. Alors, le Seigneur les mit par conséquent en garde contre le jugement hypocrite. Alléluia.
Amen.
Pour cela que le Seigneur ici ne juge point afin que vous ne soyez jugés, il met en garde les pharisiens contre le jugement hypocrite, c'est-à-dire sans miséricorde. Sans humilité. Alléluia. Donc ici, c'est là où nous pouvons comprendre cette notion. Les pharisiens avaient un esprit de critique là. Alors, il va leur dire maintenant, au verset 2, Noah.
Oui.
Jugement hypocrite, sans miséricorde, sans humilité, ils sont dans un esprit de critique qui est différent de l'esprit critique. Lis un peu le verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Oui? Matthieu 7, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit?
Car on vous jugera du jugement dont vous jugez.
Oui.
Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.
Oui.
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère?
Oui.
Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil?
Oui.
Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite!
Voilà.
Ôte premièrement la poutre de ton œil.
Voilà.
Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère.
Ok. Donc, c'est une mise en garde contre le jugement hypocrite, sans miséricorde, sans humilité. C'est cette vérité qu'il faut bien comprendre quand le Seigneur parle dans Matthieu 7, le premier verset. C'est cette vérité-là. En analysant de manière détaillée Matthieu 7.1, je comprends que Matthieu 7.1 n'enseigne pas que nous ne devrions jamais porter de jugement. Alléluia. Mais c'est une mise en garde contre le jugement hypocrite. Alléluia. Contre des gens qui ont la propension à être critiques. La Bible enseigne clairement qu'il y a des sortes de jugements qui ne sont pas interdits et des situations où nous avons même un devoir de juger.
Amen.
Alléluia. Dans le même chapitre 7, au verset 15 à 20, nous lisons.
Gardez-vous des faux prophètes.
Oui.
Ils viennent à vous en vêtements de brebis,
oui.
Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs.
Oui.
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Oui.
Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits.
Oui.
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits,
oui.
Ni un mauvais arbre porter de bons fruits.
Oui.
Tout arbre arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
C'est donc
à leurs fruits
que vous les reconnaîtrez. Mais pour les reconnaître, tu dois d'abord examiner. Alléluia.
Amen.
Nous avons défini le verbe, le verbe jugé la fois passée. Amen. Pour reconnaître ces faux prophètes et leurs enseignements, tu dois d'abord examiner. Alléluia. Tu dois apprécier. Et le Seigneur ici évalue le fruit de ces faux prophètes sont mauvais. Alléluia. Le Seigneur évalue ici que leurs fruits sont mauvais. Pour ne pas se laisser tromper, hein, il faut examiner. Il faut apprécier. Et après, évaluer. Une idée similaire est enseignée aussi dans 1 Jean. 1 Jean 4, le premier verset.
Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu.
Voilà.
Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
Voilà. Que veut dire éprouver? Que veut dire éprouver? C'est tester. Il faut tester, il faut tester la chose. Mettre à l'épreuve la chose. Alléluia. Amen. Tu n'avales pas n'importe comment. Alléluia. Non. Tu testes, amen, tu testes. Amen, amen, amen. Mais tu es en train d'examiner.
Amen, amen.
Alléluia. Et que dire d'Ephésiens, chef 5, verset 8 à 11.
Autrefois, vous étiez ténèbres.
Oui.
Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur.
Oui.
Marchez comme des enfants de lumière.
Oui.
Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur.
Ah! Et puis?
Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres.
Voilà.
Mais plutôt condamnez-les.
Ah! Examinez. Donc, tu ne peux pas te laisser embobiner du premier regard. Non, prends le temps. Examine la chose, vérifie la chose. Et tu auras le temps, si du moins tu es spirituel, tu auras le temps de condamner. Alléluia. Tu auras le temps de condamner. Et une autre sorte de jugement qui est nécessaire concerne la correction spirituelle que l'Église doit exercer quand un membre qui vit dans le péché n'accepte pas de se repentir. Alléluia. 1 Corinthiens 5, 11 à 13. Tu ne dois pas être un chrétien de nom.
Oui. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique.
Oui.
Ou cupide.
Oui.
Ou idolâtre.
Oui.
Ou outrageux.
Oui.
Ou ivrogne. Ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors?
Oui.
N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger?
Ah! Mais le Seigneur dit, ne jugez point. C'est pour cela que je disais, Dieu ne peut pas se contredire. Il faut évoluer contexte par contexte, examiner les choses. Alléluia! Amen. Donc ici, tu n'es pas un chrétien de nom. Et la Bible te dit de ne pas y avoir de lien avec... Mais comment tu le sauras? Quelqu'un qui vit dans le désordre, tu n'as pas de lien à avoir avec lui.
Amen. Amen.
Alléluia.
Amen.
Mais c'est un travail. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? C'est un travail qu'il faut faire. L'Église a ces devoirs-là. Tu n'as pas à gérer ces devoirs. Paul parle très bien aux Corinthiens. Tu es débauché, tu es ceci, tu es cela. Et tu ne veux pas te repentir. Tu viens souiller l'atmosphère de l'Église. Et on doit dire bravo. Et un verset qui est aussi plus connu dans la Bible, mais qui est mal compris, 1 Samuel 16, verset 7.
Et l'Éternel dit à Samuel,
oui.
Ne prends point garde à son apparence,
oui.
Et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Amen. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.
Merci, cette partie-là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Très connu dans la chrétienté, mais mal compris. Sinon, toujours tordu dans l'esprit des gens. Et le Seigneur regarde au cœur. Oh, papa, hein, maman, mais ce que tu manifestes, c'est là. C'est ça que se trouve dans ton cœur. Ce que tu manifestes, c'est là. C'est ça que se trouve dans ton cœur. Le Seigneur regarde au cœur. Oui, c'est vrai. Mais le cœur de l'homme, la Bible nous dit, est tortueux. Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme est rempli d'horreur. Hein? C'est là que résident tous les maux, le cœur de l'homme. Et ce que Dieu est en train de manifester là, Dieu l'a vu, et moi aussi je le vois. Ah mais Dieu regarde au cœur. Mais attends, tu es allé trop loin dans ta manière de voir les choses.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Donc, parce que Dieu regarde au cœur, cela te donne le droit de vivre dans l'immoralité sexuelle, de vivre dans l'immoralité grand carré, au lieu de te repentir. Hein? Dieu regarde au cœur. Qu'est-ce que je dois déduire? Donc, vous comprenez?
Amen.
Donc, la déduction est calée. Tu la boucles, tu dis rien. Et je refuse d'être responsable de ta mort.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Je te dis bien, je refuse responsable d'être responsable de ta mort.
Amen.
Je dois exercer mon devoir de juger ou de redresser.
Amen.
Et de corriger. Ézéchiel 3. Puisque j'ai vu, Ézéchiel 3, 18, 16 à 18.
Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Oui.
Fils de l'homme, je t'établis comme une sentinelle sur la maison d'Israël.
Mm-hmm.
Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche.
Oui.
Et tu les avertiras de ma part.
Oui.
Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie,
oui.
Et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang.
Je refuse. Moi, je refuse. Je ne veux pas être complice avec toi. Non. Moi, je refuse. Alléluia.
Amen.
Je t'avertirai. Mais on verra comment. Parce que Galate nous a déjà dit, hein, si quelqu'un, on va te redresser. Alléluia.
Amen.
Mais commence pas à m'intimider, Dieu regarde au cœur. Et quel est le message qui est derrière? Que je me taise, c'est ça? Oui, mais tu as un message à me donner quand tu me dis, Dieu regarde au cœur. Ça m'énerve. Il a toujours des yeux sur les gens. Il ne détourne jamais. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce que ton cœur manifeste. Hein? Ce qui est au-dedans de toi est manifesté à l'extérieur. Alors moi j'ai vu maintenant. Tu veux que je dise quoi? Peut-être que je serai maladroit. Ah, ça, c'est une autre affaire. Peut-être que je serai maladroit. Ça, j'accepte. Mais il ne faut pas me dire, Dieu regarde au cœur. Il ne faut pas me le dire. Là, tu ne mourras pas. Dieu regarde au cœur. Ah, mais, vous savez, nous sommes au temps de la grâce. Oh, la grâce infinie. Ah, est-ce que tu as compris le message, ce message dont tu parles? Le message de la grâce, tu l'as compris? Le message de la grâce dont tu parles, tu l'as compris? Puis si tu as compris le message de la grâce, tu n'allais pas te comporter comme ça, de me dire que Dieu regarde au cœur. Parce que si tu penses seulement à ce qu'il a souffert pour toi, hein, et que tu continues à mener cette vie que tu mènes, et tu prends plaisir à ça, il y a un problème. Message de la grâce, nous sommes au temps de la grâce. Vous n'avez que l'évangile des condamnations. Ça, plusieurs fois, hein, j'ai entendu. Hein. Vous n'avez que l'évangile des condamnations. C'est le temps de la grâce. Ah. Donc le temps de la grâce te permet de mener cette vie que tu mènes. Oh là 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 là, pitié. Le message de la grâce. Page 23. Paragraphe 94. Écoutons ce que le messager dit. Abraham avait menti à ses rois en lui affirmant que Sarah était sa sœur et non sa femme. Mais la grâce de Dieu intervint car Abraham s'était repenti.
Amen.
Mais vous refusez la repentance. Oh, c'est la repentance qui arrête la colère de Dieu. Amen. D'une manière nette. Amen. Tu n'es pas dans ça. Aujourd'hui, tu as volé un coq. On te prend, on suspend le coq à ton cou. Voilà, voleur de coq. Ça va. OK, c'est la première fois. Le mois prochain, voleur de poule. On te prend avec la poule, on suspend au cou. Ah bon, OK, ça va. C'est la deuxième fois, il va se repentir. Troisième fois, voleur de dindons. Mais finalement, c'est une vie pour toi. Hein? Commettre un péché et vivre dans le péché sont deux actions différentes. Et là, toi, tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché et que le gens doivent... Non. Non. Une fois, c'est bon. Deux, trois, quatre. Donc, c'est une habitude, c'est ta vie. Tu vis dans le péché. Tu prends plaisir au péché. Et l'Église, Paul parle dans 1 Corinthiens 5, versets 11 à 13. L'Église a un travail à faire, de discipliner. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Une fois, deux fois, trois fois, tu es toujours dans la même chose. Toujours dans la même chose. Et puis, des actes inqualifiables. Mais non. Et tu t'affiches aussi sans gêne. Tu es là avec un regard éhonté comme ça. Mais non. Le péché ne doit pas devenir ton mode de vie. Non. Alors il dit, sachez que la grâce de Dieu est toujours donnée à celui qui se repent. Amen. Alors la vraie repentance. La grâce de Dieu est en quête des rétrogrades repentants. La grâce de Dieu est suffisante. Ne jugez pas. Des regards au cœur. Hein, vous n'avez qu'un message de condamnation. Pas le même message de condamnation. Vous vivez dans quoi, vous? Non, tu es quand même sérieux. Ne vivons dans quoi? Même pour toi-même. T'as pas honte? Ah, la honte est partie. Parce que tu es oint par un esprit de trois points de suspension. Je m'arrête là. Tu es oint d'un esprit de pécheur et tu continues. Et alors là, ta conscience est dans le coma. Ta conscience est dans le coma. Ce n'est pas normal. Et un regard lucide sur ton état de pécheur. Tu dois avoir un regard lucide. Ce n'est pas, oui, la personne à côté a un rôle à jouer, mais toi-même, tu as une conscience. Libère ta conscience. Libère ta conscience pour que tu puisses entendre ce que ta conscience te dit. Mais comme la conscience est dans le coma, plus rien ne passe. Hein? Plus rien ne passe. Pour terminer, mon frère, ma soeur, avoir l'esprit, pas de critique, mais l'esprit critique. Alléluia.
Amen.
L'esprit critique est là pour quand quelqu'un est animé d'un esprit critique, c'est la compétence de penser de manière analytique et évaluative afin d'améliorer la situation. Donc, avoir l'esprit critique, c'est un devoir si tu aimes quelqu'un. Que la Bible nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Alléluia. Un commandement nouveau. Donc, dans ce commandement nouveau, mon frère, ma soeur, tu as un devoir. Tu as un devoir d'examiner. Tu as un devoir d'apprécier. Si tu ne redresses pas un pécheur, tu deviens son complice. Alléluia.
Amen.
Tu deviens son complice. N'oublions pas que cette fameuse maxime qui dit « Qui ne dit mot consent ?» Et il y a d'autres personnes qui sont vraiment douées dans ça. Juste le regard tout simplement pour te dire que bon, Dieu regarde au cœur, alors tu la boucles, moi je passe mon chemin. Alléluia. Il est fort évident, mon frère, ma soeur, qu'il n'est pas très gentil de juger. Mais il y a plus que ça. Alléluia. Je vais donner 4 points pour terminer. Il y a plus que ça. 1. Quand tu exerces ton devoir de juger, d'examiner, de critiquer, as-tu toute la lumière qui permet de bien analyser, de bien évaluer la situation? Question. As-tu toute la lumière qui permet de bien analyser, de bien évaluer la situation, car tu ignores souvent ce qui se trouve dans le cœur de l'homme. Tu l'ignores. C'est pourquoi il vaut mieux t'abstenir de juger de façon active. Alléluia. Il faut s'abstenir. 2. En jugeant, n'oublie pas que tu es aussi pécheur.
Amen.
Alléluia. Galates 6, 1b. Qu'est-ce que Paul dit? Galates 6, 1b.
Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté.
Voilà. Dans ton devoir de juger, il faut avoir le discernement. Le discernement pour bien orienter l'action à travers les circonstances de la vie. Il est écrit ceci, Ésaïe 11, 2.
L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Mm-hmm. Esprit de sagesse et d'intelligence.
Oui.
Esprit de conseil et de force.
Oui.
Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel.
Oui.
Il respirera la crainte de l'Éternel.
Oui.
Il ne jugera point selon l'apparence.
Oui.
Il ne prononcera point sur un oui dire.
Ah! Avez-vous entendu? Donc dans tout ça, moi je mets ça dans l'enveloppe discernement. Alléluia.
Amen.
Je mets tout Ésaïe 11, 2 dans l'enveloppe que je peux appeler le discernement. Alléluia.
Amen.
3. Juste un peu plus de sagesse. Tu n'as pas à dire à un pécheur, tu iras en enfer parce que tu es homosexuel, parce que tu es adultère, parce que toi, ok. Vous complétez. Non. Cela appartient au Seigneur lui-même qui met toutes choses en lumière, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous lire 1 Corinthiens 4, verset 5?
C'est pourquoi
oui.
Ne jugez de rien avant le temps,
oui.
Jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres.
Voilà.
Et qui manifestera les desseins des cœurs.
Voilà. Toi, tu as à montrer à la personne sa situation. Alléluia. Tu montres à la personne sa situation, et tu pries pour lui. Alléluia. Dans le message Révélation de Christ, le messager dit ceci à la page 7, paragraphe 42, il dit d'abord, « Et immédiatement, cela montre que ces gens étaient appelés. Si un homme ne peut supporter une correction scripturaire, s'il se met en colère et explose, cela montre qu'il n'est pas en ordre avec Dieu. C'est vrai, mais un véritable saint de Dieu va être réconcilié avec Dieu par la parole. C'est vrai, et la parole est le moyen de correction. Alléluia. Tu lui montres selon la parole. Alléluia. Que son attitude n'est pas adéquate par rapport à la parole, et tu pries pour lui. Bon, si par mégarde, Dieu regarde au cœur, bon, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Dieu regarde au cœur. Paragraphe 45. Quand vous pouvez voir un homme dont il est prouvé qu'il est dans l'erreur et qui s'avance en disant « j'ai tort », cela montre qu'il veut être un chrétien.
Amen.
C'est alors un véritable chrétien. Mais si cet homme explose et s'esquive en disant « bah, ce n'est rien », c'est ce qu'on a dit là. « Ah bah, ce n'est rien », et ainsi de suite, prenez-y garde, frère. Vous pouvez voir tout de suite qu'il est tombé sous les coupes de la condamnation. Parce qu'il n'était pas des nôtres. Alléluia. Pasteur, venez toujours à cette parole et cela marchera chaque fois.
Alléluia.
Mais vous devez rester avec la parole.
Amen. Alléluia.
Amen. Alléluia.
Amen.
Vous devez rester avec la parole.
Amen.
Mon frère, ma soeur, nous voyons bien, l'homme spirituel juge tout et quand le Seigneur dit, ne jugez point, cela ne voudrait pas dire qu'on ne doit pas exercer ce devoir-là. On vient de le voir à travers les Écritures. Alléluia.
Amen.
Il faut toujours juger avec sollicitude et compassion.
Amen.
Alléluia.
Amen.
toujours juger avec sollicitude et compassion. Alléluia.
Amen.
Que Dieu vous bénisse. Oh, quand j'ai songé l'amour de Jésus
et à tous
qu'il a fait pour moi, alors je vais chanter Alléluia. Merci pour Golgotha. Oh, quand je songe, oh, de Jésus, oh, Alléluia. Merci pour Golgotha. Une couronne,
Jésus
la donne. Ô soldat, tous ceux qui combattront en son nom, Jésus donnera cette, oh, une couronne. Jésus la donne, soldat. Oui, c'est vrai. Alléluia. Amen. Combattons à son nom. Donnera cette couronne.
Puis-je demander à frère Benoît de prier pour la parole et de congédier l'Assemblée.
Donner à tout le monde, Seigneur, pourquoi nous voulons, oh Père, te demander de l'assistance, Père éternel, Père, sans toi, nous ne pouvons pas appliquer ces choses, Seigneur, et bien des fois nous voyons, oh Père bien-aimé, nos frères, nos sœurs, oh éternel, mon Dieu, Père, dans une situation difficile, mais nous avons peur parfois même de nous avancer, Seigneur, notre Dieu, Père, oh Dieu, aide-nous tout simplement, oh éternel, mon Dieu, à pouvoir, oh Dieu, Père, mettre ces choses en pratique avec le bon esprit, Seigneur. Ô Dieu, ne pas tomber comme, mon Dieu, des pharisiens, comme des hypocrites, ô éternel. Ô Seigneur, aide-nous, Père éternel, mon Dieu, Père bien-aimé, parce que parfois, ô Seigneur, nous sommes, ô l'Assemblée est paralysée à cause, mon Dieu, de ce genre de situations qui sont là et sur lesquelles personne n'ose même parler, ô Dieu. Nous remettons toutes choses entre tes saintes mains, Père éternel. Bénis ton serviteur, nous, qui sait, ô, qui a fait ses recherches pour essayer de nous transmettre ce qu'il a reçu de ta part. Remplis-le encore pour l'utiliser pour l'utilité commune de toute l'Assemblée, Seigneur, ainsi que tous tes serviteurs qui travaillent au milieu de nous, Père éternel. Maintenant, nous allons nous séparer. Oh Dieu, c'est toi qui nous as amenés en ce lieu. C'est toi qui nous as gardés sur le chemin. Nous te demandons également ta protection sur le chemin du retour, ô éternel. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous en ce soir. à ton nom seul soit la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.